Ja, herzlich willkommen.
Je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être venu. J'espère que vous entendez bien l'interprétation. Parfait. Canal 1 pour le français, canal 2 pour l'allemand. Parfait. Mesdames et messieurs, tout d'abord, je voudrais dire que je suis enchantée de vous accueillir à cette nouvelle manifestation de notre cycle « Démocratie fragilisée, un retour des autoritarismes ». C'est un cycle que nous avons organisé à l'occasion du 70e anniversaire de la maison Heinrich Heine. Et c'est une sorte d'espace de réflexion qui va nous permettre de nous pencher sur les tensions qui traversent aujourd'hui nos sociétés démocratiques, la montée des courants radicaux, l'affaiblissement de tout ce qui est médiation politique et sociale, la normalisation des discours politiques et également l'apparition de nouvelles formes d'influence idéologique qui nous mettent à l'épreuve, nous et nos institutions. Ce soir, nous avons le très grand honneur d'accueillir un historien et journaliste, Götz Ali. Ses travaux ont très largement contribué à mieux faire comprendre les mécanismes sociaux, politiques et économiques qui ont permis la transition de l'Allemagne vers le nazisme. Il vient de publier un ouvrage que vous pouvez voir ici, intitulé « Wie konnte das geschehen ?» Comment cela a-t-il pu arriver, l'Allemagne de 1933 à 1945 ? Il va s'entretenir avec Michaela Weigel des conditions qui ont conduit à l'effondrement de la démocratie en Allemagne et de toutes les répercussions que cela a sur nos sociétés contemporaines. Aujourd'hui en Europe, nous connaissons des problèmes et nous sommes très préoccupés. Pour nos démocraties, il est donc absolument essentiel de nous pencher sur cela avec une rigueur historique, non pas forcément pour tirer ou établir des analogies hâtives, mais pour essayer de mieux comprendre ces fragilités politiques qui rendent possibles les dérives autoritaires. Monsieur Ali, merci encore d'être venu, d'avoir accepté notre invitation et je remercie bien évidemment tout spécialement Madame Weigel, qui est correspondante de la Frankfurter Allgemeine à Paris et qui accompagne ce cycle depuis ce début. Je tiens également à remercier nos partenaires, la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou, l'Institut historique allemand, et je remercie également le Fonds citoyen franco-allemand pour son très très généreux soutien aux initiatives qui permettent d'entretenir le dialogue démocratique et les échanges franco-allemands. Et bien évidemment, je remercie par avance nos interprètes de ce soir, Gabriel Venmer et Isabelle Bonnefond, pour leur précieux travail, sans lequel ce débat ne serait absolument pas possible. Voilà. Et je vous remercie bien évidemment, vous tous. Vous êtes très nombreux, cela montre votre intérêt, votre curiosité et votre attachement à ces manifestations. Si les discussions d'aujourd'hui vous intéressent, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire aux prochains événements de ce cycle. Dans deux semaines, c'est-à-dire très bientôt, nous recevrons Axel Honneth le 1er juin et Corinne Peluchon sera parmi nous le 10 juillet. Donc surtout, n'hésitez pas, nous serons enchantés de vous revoir. Mais bonne soirée déjà et je vais maintenant vous laisser dans la compagnie de nos invités.
Auch von mir, guten Abend.
Eh bien, bonsoir. Vous savez qu'une animatrice, une bonne animatrice en tout cas, se retient de trop parler. Je passe donc immédiatement la parole à Götz Ali, qui a eu, à mon sens, une excellente idée. Alors, ce n'est pas forcément très, très répandu en France, mais il va nous lire un petit extrait de son ouvrage. Je suppose que vous n'avez pas tous lus, en tout cas pas encore, et là vous comprendrez pourquoi est-ce que nous avons choisi de ce texte. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Le livre que vous voyez ici, Wie konnte das geschehen, comment est-ce que cela a pu se passer, l'Allemagne de 1933 à 1945, est un livre qui tente d'expliquer comment est-ce que assez furtivement cela s'est passé et comment est-ce qu'une population, un peuple entier, a versé. C'était un peuple qui n'était pas forcément plus criminel que les Français avant 1933 et après 1945 non plus. Mais ce livre essaie d'expliquer comment est-ce qu'on a pu déchaîner tout cela en 8 ans, donc c'est très court à l'aune d'une vie humaine, en 8 ans, un régime s'est instauré. Et ces gens-là, c'était des gens parfaitement normaux, parfaitement ordinaires. Et c'était nos ancêtres pour nous autres Allemands. Moi, c'était mon père, mes grands-parents. Et comment expliquer ce phénomène? Ce n'étaient pas des gens qui manquaient de fibre morale. En tout cas, ils n'en avaient pas moins que nous. Ils n'avaient pas moins d'intelligence. Ils étaient tout à fait ordinaires. Et la Seconde Guerre mondiale, qui est la plus sanglante de toute l'histoire humaine, a été causée uniquement par l'Allemagne. Alors, ce n'est pas le cas, ou en tout cas, on ne peut pas vraiment dire ça pour la Première Guerre mondiale. Mais là, jusqu'au dernier jour, les Allemands ont combattu. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on a un peu de mal à imaginer. Depuis, à partir de 1917, vous savez qu'il y a eu des grèves dans les fabriques de munitions, les choses se sont arrêtées, alors que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands sont allés jusqu'au bout en faisant usage de la force militaire, et c'est la force militaire qui a permis de libérer l'Allemagne. Donc comment expliquer que des gens normaux, dans le cas de mon père, et puis suivre. Et c'est le cas pour beaucoup de familles allemandes. Enfin, je répète, ce sont vos ancêtres, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, c'est un petit peu la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Et j'ai écrit ce qui s'est passé sur le plan gouvernemental, mais je me suis plongée dans la correspondance, dans des journaux, dans des quotidiens, dans des rapports. Je me suis également penchée sur des conversations qui avaient été transcrites, des conversations et des entretiens avec des prisonniers de guerre allemands dans les camps britanniques et américains. Il y a, je crois, c'est 150 000 pages de conversations qui ont été transcrites. C'est quelque chose qui a été rassemblé et ensuite exploité. Bien évidemment, là aussi, je me suis intéressée à ma propre famille. Je suis un historien contemporain. Vous savez que théoriquement, on n'a pas de famille en Allemagne, alors qu'on a certains de nos collègues, des collègues juifs, eux, ils ont tous des familles. Mais nous, on n'a plus de famille. Donc voilà, je voulais essayer de surmonter un petit peu ces lacunes. C'est la raison pour laquelle je vais vous raconter maintenant une petite histoire qui a été narrée par mon père et qui intéresse aussi la famille que j'ai en France. En 1937, mon père était un petit employé de la Hitlerjugend, la jeunesse hitlérienne, dans ce qu'on appelait la Saarpfalz. En 1940, c'est une région, donc la Sarpe-Palatinat, qui fut étendue pour englober une grande partie de la Lorraine et qui prit alors le nom de Westmark. Mon père fut blessé pendant la guerre, il y avait le grade de premier lieutenant, et à l'automne 1943, pendant 2 semaines, une fois rétabli de ses blessures de guerre, il a dirigé pendant 12 semaines un camp d'entraînement militaire destiné à des garçons de 16 et 17 ans, qui étaient membres des jeunesses hitlériennes. Le camp se trouvait tout près de l'Alsace, ça je le savais, mais il y avait tout de même pas mal de choses que j'ignorais. Et ce n'est qu'en 2024, alors que je travaillais sur mon livre, que je suis tombée sur des indices. Après sa disparition, j'ai hérité de 25 livres de mon père qui traitaient tous des jeunesses hitlériennes. Alors je ne m'y suis pas intéressée plus que ça, mais j'ai tout de même décidé de les lire. Bon, je me suis dit, bon, 25 livres, c'est beaucoup à lire. Je ne connais pas forcément tout cela. Mais lorsque j'ai rédigé mon livre, je me suis dit, est-ce que ces ouvrages ne pourraient pas contenir des informations importantes pour mon sujet? Alors, ce n'était pas forcément le cas. Mais il y a tout de même un ouvrage, un gros ouvrage en 2 volumes, qui était intitulé « Histoire militaire de la 12e division blindée SS, Hitlerjugend », qui m'a intéressée. Pourquoi? Parce que dans sa première partie, on traitait des batailles en Normandie, auxquelles avait justement participé la division blindée SS Hitlerjugend. Et ça, c'est quelque chose qui m'a immédiatement passionnée, notamment la bataille de Falaise. Cette bataille s'est déroulée du 8 au 20 août 1944. Et je dois vous dire que moi, je connais bien cette région, ainsi d'ailleurs que le musée qui a été créé dans les années 1960. Dans cette région. Ça a révélé pas mal de souvenirs. Dans ce musée, on voit pas mal de photos, des plans, des séquences filmées qui ont été faites par les Américains, les Anglais, et on y voit notamment de très très jeunes soldats allemands. Et grâce à la victoire des troupes américaines, canadiennes, polonaises et britanniques, dans cette bataille qui était sanglante, les forces alliées ont ensuite percé. Ils ont fait une percée vers Paris et quelques jours après, les 24 et 25 août, ils ont pu entrer dans Paris. Donc, Si je connais ce lieu et son histoire, c'est un petit peu par hasard. C'est tout simplement parce que la famille d'un de mes deux fils habite à proximité de ce champ de bataille. Et les habitants du coin parlent encore aujourd'hui des destructions, des nombreux morts et des très rares soldats allemands très jeunes qui avaient réussi à s'enfuir. Ce sont des histoires que leurs parents, leurs proches leur ont racontées lorsqu'ils étaient enfants. Et lorsque je vais chercher mes petits-enfants à l'école en voiture, moi je passe par ce couloir de la mort qui est devenu aujourd'hui un site qui attire les touristes. C'est là qu'en août 1944, plus d'un million de jeunes soldats de la division blindée SS Hitlerjugend, que les alliés appelaient les baby soldiers, les bébés soldats, ont perdu la vie. Alors au départ, je me suis dit, pourquoi ne pas envoyer ces deux volumes, très bien illustrés, en Normandie ? Parce que c'est tout de même un peu là où ils auraient dû être. Et puis je me suis dit, mais je comprends pas trop. Pourquoi est-ce que mon père, qui ne s'intéressait pas vraiment à ce genre de livres, avait acheté ces deux volumes ? Et pourquoi est-ce qu'il les avait lus de façon aussi attentive ? Et je n'ai pas tardé à trouver la réponse. En effet, le camp d'entraînement militaire des jeunes qu'il dirigeait, moi, je pensais que c'était une sorte de camp scout amélioré avec des cours paramilitaires, mais je pensais que c'était vraiment ça. Et j'ai compris que ce camp d'entraînement militaire faisait partie des camps qui étaient gérés conjointement par la jeunesse hitlérienne et par les Waffen-SS. La direction était assurée par un officier de la Wehrmacht qui était issu de la jeunesse hitlérienne et par mon père. Pendant 3 mois. Et lui aussi, mon père avait été blessé dans la guerre. Et ces exercices duraient 6 semaines. Eric, qui avait 17 ans à l'époque, a participé à une conversation sur un site internet en 2008. Le site internet intitulé Forum de la Wehrmacht. Et il raconte qu'il a participé à ce camp d'entraînement militaire près de Dürrenbach, où était donc mon père. Et il a raconté sur ce forum que la formation était dispensée par des membres de la Waffen-SS. Et à la fin de la formation, les officiers qui dirigeaient le camp, donc mon père notamment, a demandé aux jeunes s'ils souhaitaient s'engager volontairement dans la Waffen-SS. Parce qu'on leur a dit, vous aurez des belles voitures, des belles motos, des belles armes, etc. Et ceux qui refusaient étaient immédiatement renvoyés chez eux et on les traitait de lâches. Et tous, à quelques très très rares exceptions près, ont suivi après ce camp paramilitaire une assez brève formation militaire. Et ensuite, ils ont été affectés à la 12e division blindée SS Hitlerjugend. Plus des deux tiers de ces enfants soldats ont péri en 1944-45 lors de batailles de chars à falaise dans les Ardennes belges, également dans l'un des plus gros combats de blindés sur les rives du lac Balaton dans l'ouest de la Hongrie. Et toutes ces batailles étaient parfaitement absurdes et n'ont servi à rien. Et mon père s'est rendu assez souvent, lorsqu'il était encore vivant, bien sûr, dans des camps, dans des cimetières militaires allemands. Et il ne nous a jamais dit pourquoi. Mais le destin des jeunes qu'il avait contribué à former est forcément quelque chose qu'il a suivi toute sa vie, qui lui a pesé, mais il n'en a jamais parlé.
Merci.
Vous avez entendu un extrait de ce livre qui, à mon sens, décrit parfaitement les mécanismes à l'œuvre. Et cela amène à ma première question. Vous avez dit, dans votre livre intitulé « Comment est-ce que cela a pu se passer ?», au fond, c'est quelque chose qui incarne parfaitement ce que vous représentez. Cela est l'essence même de votre travail. Vous avez travaillé sur l'idée que ça n'était pas un petit groupe de fanatiques qui avaient suivi les nazis et qui avait précipité l'Allemagne dans l'abîme, mais que, au contraire, c'était une majorité des citoyens qui a participé à ce régime. Est-ce que vous pourriez peut-être nous décrire les mécanismes à l'œuvre ? Pourriez-vous nous expliquer comment, finalement, comme vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure vous-même, comment est-ce qu'une société qui n'était pas plus criminelle que la nôtre et qui revendiquait d'ailleurs pour elle-même le terme de nation culturelle, comment expliquer qu'elle ait pu se transformer aussi rapidement et se soit transformée en communauté de criminels ? Je trouve que vous avez fait des observations extrêmement intéressantes, notamment sur le rôle de l'Église protestante. C'est une question difficile. Alors, surtout, interrompez-moi si je parle trop longuement ou si je m'égare. Il faut d'abord essayer d'imaginer quelles étaient les conditions à l'époque. Nous avions connu une crise économique mondiale, il y avait les suites du traité de Versailles et les répercussions en Allemagne avaient été beaucoup plus graves et beaucoup plus profondes et durables qu'en France, par exemple. En d'autres termes, un quart des actifs étaient au chômage et un cinquième de la main-d'œuvre avait des contrats de courte durée quant aux salaires, aux retraites et autres. Ils avaient baissé de 30% depuis 1929, depuis la crise économique mondiale. Il y avait des couches moyennes de la population qui représentaient 8 ou 9%. Bon, eux, ils arrivaient à peu près à s'en tirer, mais le reste était vraiment vivait dans des conditions extrêmement difficiles. La République de Weimar, avec le SPD, les partis libéraux, les partis du centre, étaient alors au pouvoir. Il y a eu deux élections et en 1932, il faut savoir que 60% des électeurs allemands ont voté contre la République, même si l'on n'a donné que 37% aux partis vraiment extrêmes. Maintenant, vous savez qu'il y a une coalition et 60% ont rejeté les partis républicains. Donc là, je ne parle pas du parti communiste, etc., mais 60% ont rejeté les partis de la coalition. Et ce qui est important également, c'est de voir les conditions qui étaient réunies pour favoriser l'avènement du national-socialisme. Vous savez, on a dit oui, ils ont perdu la guerre, il y a eu l'inflation, la dépression. Bien sûr, ça existait, mais il y avait tout de même d'autres choses. Il y a 25 ans, il y a des choses qu'on n'aurait pas pu dire, mais vous savez, il y avait des gens qui disaient « oui, la démocratie sous l'empereur, ça ne se serait pas produit comme ça ». Et c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais dit avant. La révolution démocratique de 1819 en Allemagne a fait partie des conditions, finalement, qui ont ensuite conduit à un changement de régime. Ensuite, et je pense que c'est probablement à peu près la même chose en France, l'excédent démographique en Allemagne, on l'a connu entre 1900 et 1915. On avait un excédent démographique de 11 millions. Donc, attention, quand je dis 11 millions, c'était un excédent démographique qui n'était pas dû à l'immigration. Donc, c'était des jeunes. Il y avait plusieurs millions de jeunes grâce au progrès de la médecine, la vaccination, la lutte contre tout ce qui était la peste, le choléra, l'amélioration des circuits d'eau potable, du traitement des maladies pulmonaires, le soin lors des accouchements, etc. Bref, ma propre grand-mère, je ne sais pas si elle avait 12 ou 13 enfants, c'était tout à fait normal. Et quand vous voyez la biographie des membres actifs du régime nazi, ils viennent pratiquement tous de cette génération. Et ces jeunes, et ça aussi c'était un progrès finalement, ils sont nés à Londres, où il y avait une ascension sociale. Donc, à la fin de l'Empire, pendant la République de Weimar, c'était des gens qui voulaient grimper dans l'échelle sociale et qui se représentaient un avenir. Et le problème, c'est que tout d'un coup, la crise économique mondiale, en 1931-1932, a bloqué leur aspiration. D'ailleurs, on le voit quand on considère la fréquentation des lycées, des collèges et autres. Enfin, je vous ai déjà dit que ma mère avait 12 enfants, mais bref, il y a pas mal de gens qui ont décidé qu'ils voulaient maintenant gagner leur argent, aller en ville, devenir indépendants et autres. Et tout d'un coup, ça n'était plus possible. Du coup, Hitler a saisi ce réservoir et a dit « Nous allons faire quelque chose et on va y arriver ». Hitler est arrivé au pouvoir sans majorité dans la société. Les gens étaient plutôt sceptiques, mais il a profité de quelque chose, finalement, d'un leg de la République de Weimar à savoir un train de réforme absolument incroyable. Oui, je vois que certains opinent du chef, à juste titre d'ailleurs, mais 1930, la crise économique internationale, la crise économique mondiale avait frappé et du coup, il n'y avait plus de consensus. Et Hitler en a profité. Un grand nombre de lois votées sous Hitler subsistent encore aujourd'hui. Elles ont un petit peu été révisées, mais prenez la loi sur la citoyenneté allemande. Elle existe depuis 1934. Avant, on avait des Thuringois, des Saxons, des Prussiens, des Bavarois, etc. Ou bien encore, tout ce qui est code applicable à la route, eh bien voilà. Alors, bien sûr, la Bavière n'avait pas les mêmes règles que la Prusse à l'époque, mais tout ça, ça a permis d'unifier tout ce qui est règles sur les routes. Mais bon, tout ce qui est cadastre également, ça aussi, ça remonte à cette époque. Et avec la crise, il y a des mesures qui ont été prises. Et la première chose que Hitler a fait, ça a été de déclarer que les finances publiques étaient maintenant confidentielles et que ça n'était pas la solution de s'en occuper. Et pendant 12 ans, on n'a plus parlé de finances publiques. C'est formidable, non ? On n'en parlait plus. C'est vraiment... on ne savait pas ce qu'on dépensait. C'est tout de même très intéressant. Et il faut savoir que Hitler a travaillé avec la dette. La République de Weimar n'avait plus un sou. Les hôpitaux, les institutions publiques avaient fait faillite.
So une Krankensteuer. Also wenn man zum Arzt ging, musste man.
Et il fallait payer 50 pfennig lorsqu'on allait à l'hôpital, 50 pfennig pour une ordonnance. Le problème, c'est qu'un retraité touchait 30 marks du mois et une famille de gens qui travaillaient touchait 120 marks. Et du coup, ça représentait beaucoup d'argent. Et Hitler a divisé cette somme par deux. Ça ne coûtait plus que 25 pfennig. Et il a aboli le système pour les orphelins de guerre, les veuves, etc. Et il faut savoir également qu'il y avait pas mal de gens qui n'arrivaient plus à payer leurs dettes. Et il y a des exploitations agricoles qui ont été saisies. Et Hitler a tout arrêté. Tout ce qui était expropriation, nantissement, etc. Il a immédiatement mis fin à ça. Il a amélioré la protection des locataires pour stabiliser la situation à court terme. Et ce sont des mesures dont on ne parle pas. On parle de violence, on parle des camps de concentration et on parle de tout ce qui est SA. Alors bien sûr, ça existait, mais il ne faut pas oublier que pour le gros des gens, il y avait d'autres choses qui étaient plus importantes. Quant à la violence, dans les batailles entre les communistes et les nazis, les nationaux-socialistes, il y avait souvent, en l'espace d'une ou deux semaines, une quinzaine de morts qui décédaient à cause d'affrontements politiques. Et les gens avaient peur d'ailleurs que cela empire et qu'on se retrouve dans une situation de guerre civile. Donc ça aussi, la population en a tenu compte. Et il a réussi, avec ses moyens et ses mesures, à stabiliser la situation. Il s'est endetté, il a contracté de plus en plus de dettes, bon, on pourra y revenir. Et il a introduit les congés payés, ça n'existait pas avant. 15 jours. 15 jours de congés payés, ça n'existait pas avant. Alors bon, en Allemagne, enfin en France, ça ne jouera peut-être pas un grand rôle, mais il a également introduit des allocations familiales. Il a imposé une réforme fiscale qui privilégiait les familles nombreuses et qui... toucher plus les gens qui n'ont pas d'enfants, et ça s'est resté. Donc avant ça fonctionnait bien, aujourd'hui un petit peu moins bien. Mais bref, tout cela a permis de stabiliser la situation, et du coup, Hitler a pu en peu de temps imposer, ou plutôt élargir sa base dans la société. Un mot pour les églises dont vous avez parlé. À l'époque, vous savez, tout le monde allait ou faisait partie de l'Église. Bon, maintenant, ça a changé. 2/3 de protestants, 1/3 de catholiques en Allemagne. Dans les circonscriptions électorales protestantes, il n'y avait pas encore ce mélange de population qu'on observe aujourd'hui. Donc, c'était très distinct. Dans les coins protestants, en 1932, Hitler faisait plus de 42%. Et jamais plus de 17% dans les circonscriptions catholique, ça veut dire que les protestants étaient deux fois plus nombreux à voter Hitler avec leur pensée luthérienne, leur... voilà. Et ensuite, il y a un grand nombre de jeunes électeurs. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on avait eu un excédent démographique. Et les jeunes électeurs, eux, ont porté Hitler au pouvoir. Il y avait beaucoup d'étudiants, de gens qui étaient très très bien formés et qui d'ailleurs avaient été formés grâce aux mesures prises par la République de Weimar. La plupart de ces gens qui avaient grandi dans des familles où on ne lisait pas et qui avaient réussi avec un peu de mal à passer le bac, à étudier, souvent d'ailleurs contre la volonté de ses parents, eh bien, ils ont voté Hitler. Et c'est ça, si vous voulez, le noyau de l'élite nationale-socialiste. Je pense avoir répondu, on peut peut-être poursuivre. Oui, tout à fait. Nous voulions lire un extrait de dépêche diplomatique. Monsieur Ali a expliqué comment la base s'était stabilisée, la base du régime nazi, mais il y avait une certaine inquiétude sourde qui était là, dont s'est nourri le régime nazi. Et je vais vous lire un extrait d'une dépêche d'un chargé d'affaires de l'ambassade de France à Berlin. Janvier 1939. Et c'était adressé à Georges Bonnet, qui est des ministres des Affaires étrangères. Et je vais vous lire en français.
Or, donc, la question c'est, est-ce que maintenant le régime s'est stabilisé ? Or, selon des informations dignes de foi, il n'en serait rien. Monsieur Hitler traverserait à nouveau une période de crise. Il se montrerait nerveux, agité, en proie à des accès de colère subis et violents. Il fuit, dit-on, ses collaborateurs et ses complices dans une solitude farouche. Devant ceux qui parviennent jusqu'à lui, il se repent en plainte irritée. Il ne reçoit, déclare-t-il, que des rapports décevants. La réalisation du plan de 4 ans se heurte chaque jour à des nouvelles difficultés. Dans bien des régions du Reich, l'esprit public n'est pas ce qu'il devrait être. À Vienne, Burkel se débat au milieu des scandales que provoquent la corruption et la concussion des nazis autrichiens. D'autre part, les Sudètes coûtent cher de tous côtés en l'assaille de demandes de crédits et de subventions. Diese Passage zeigt deutlich, dass man zwar den
Ce passage montre très bien qu'on a l'impression, vu de l'extérieur, qu'il y a une stabilisation. Mais je pense, et M. Ali, peut-être pourriez-vous revenir là-dessus, ce fil d'Ariane dans votre livre montre cette fuite en avant. C'est ce qu'on dit en français, une fuite en avant. Oui, nous aussi, on dit ça. Ça existe aussi. Vous avez parlé du surendettement, des guerres de pillage, finalement, de rapine. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire un peu plus ? Alors, je vous ai déjà dit qu'on ne pouvait pas avoir de renseignements sur les finances publiques. Et ce sont ces dettes qui ont permis de construire des autoroutes, de construire des digues, de mener à bien des grands projets, de transformer les villes, etc. Sans oublier, bien sûr, l'industrie de l'armement. Enfin, quand je dis nous, c'est les Allemands, bien sûr. Hein. Mais après le traité de Versailles, en 1933, on avait une armée de 100 000 personnes, sans marine, sans aviation et sans canon à longue portée. Point. En 1939, on avait 800 000 soldats de métier et 3,5 millions de réservistes. Et l'armée probablement la plus moderne de toute l'Europe. Et tout cela s'était financé avec des dettes énormes. En 1938 déjà, pour les dépenses dites civiles, 50% sont attribués à la Wehrmacht et 60% ensuite des dépenses seront consacrées à la Wehrmacht du budget de l'État et ensuite ce sera 75% pendant la guerre. Et tout cela, comment est-ce que c'est financé ? Eh bien, c'est financé à partir de rien. Et il y a également ce que j'appelle la rapine. Tout d'abord, on saisit les biens des syndicats. Les syndicats avaient un gros patrimoine, ils étaient de très bons gestionnaires. Et là, ça a été l'avènement du Deutsche Arbeitsfront. Alors attention, hein, y avait pas mal de salariés qui étaient bien traités et tout d'un coup, ils ont été intégrés à cette organisation nazie, le Front du Travail allemand. Alors il y en a qui ont dit non, ça ne s'est pas très bien passé, mais si, finalement. Et les cotisations ont été divisées par deux et la cotisation, la deuxième moitié de la cotisation devait être versée par l'employeur. Alors évidemment, les syndicats étaient contents. Ensuite, la deuxième confiscation, ça a touché les actionnaires. 50% des dividendes devaient être consacrés à l'achat d'obligations à 10 ans. Et les taux d'intérêt liés à ces obligations ont été abaissés de 2%. Mais ce qui est intéressant, c'est la propagande. Parce qu'on a dit, oui, nous devons absolument remplir la mission du Führer, nous devons absolument essayer de soulager les maux de la population et donc on a besoin d'argent. Et les syndicats, eux, c'était de la musique à leurs oreilles, ils aimaient bien entendre ce genre de discours. Voilà, c'était le national-socialisme. Et si vous voulez, c'était ça la propagande. Des obligations à 10 ans, 1944, évidemment, en 1944, il n'y avait plus d'argent. Et je peux vous dire que l'argent, il y en avait, ça a été beaucoup. Ensuite, cette confiscation ou cette rapine, c'était également aussi une question de sentiment de justice sociale. Il ne faut pas non plus penser que les Allemands étaient forcément nazis à 150%, c'était pas ça. Mais ils pensaient, bon, voilà, ma situation s'est un petit peu améliorée, ou alors les choses ne vont pas forcément s'aggraver, de toute façon, ça peut pas être pire qu'avant, etc. C'était un petit peu ça, la pensée dominante. Il y a une série sur la deuxième chaîne, il y a des séries sur la deuxième chaîne allemande qui sont absolument épouvantables, où on voit toujours la propagande et les discours de Goebbels, et on a l'impression que tout d'un coup, quand ils sentent le Führer, il y a une sorte de montée d'endorphine et que tout le monde. Bah non. Ça, c'est une image qui est totalement erronée. Les gens étaient sceptiques et le sont restés. Mais au bout de quelques années, ben voilà, il y avait le plein emploi, les gens avaient de nouveau un peu d'argent et ils étaient pris en charge. Avec toutes ces techniques et avec l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire l'impôt qui était imposé aux grandes entreprises qu'il avait été par la République de Weimar. Il faut également ajouter que avant tout cela, il y avait des ministres des Finances régionaux, mais pas nationaux. Et Hitler, jusqu'en 1940, a augmenté l'impôt sur les sociétés jusqu'à 40%. Il a dit, voilà, nous avons pas mal d'ouvriers, il faut en tenir compte. À l'époque, il y avait beaucoup plus d'ouvriers que maintenant. En 1938, on a arrêté de souscrire des obligations. Après l'annexion de l'Autriche, après la séparation des Sudètes avec la Tchécoslovaquie, avec d'ailleurs l'anéantissement de l'État tchécoslovaque, on a arrêté de démettre, enfin plutôt de souscrire des obligations. La population ne voulait plus parce qu'elle estimait que le risque était beaucoup trop important. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a exproprié les Juifs. 7 milliards 800 millions de Reichsmark. Alors qu'à l'époque, les recettes fiscales, c'était 18 milliards. Donc, 7 milliards 800 millions. Donc aujourd'hui, enfin, il faut multiplier par 15 pour arriver à des montants en euros. Mais ce sont des sommes absolument considérables. Mais, si vous voulez, tout cela, ça ne servait qu'à financer les quelques années à venir. Et ensuite, en raison des dettes qui avaient été contractées, ben le gouvernement ne savait pas très très bien comment il allait payer ses factures. Et le budget de 36 milliards était financé uniquement par des dettes papier. On ne pouvait absolument rien acheter. Et Hitler a imposé aux entreprises un rehaussement de l'impôt. Et on leur a dit, mais voilà, ce que vous allez faire, c'est que pendant un an et demi, vous allez devoir consentir des crédits à l'État. Ça va se faire par la voie fiscale, etc. En mai 39, ce qui me ramène à mon bac, Hitler a dit à ses généraux qu'ils étaient bloqués sur le plan économique, que plus rien n'allait, et que la seule possibilité, c'était d'employer des moyens violents et de saisir des biens dans d'autres pays. Et c'est ça qui s'est passé. Je vais poursuivre ma lecture. Je vais maintenant lire la fin de cette dépêche du chargé d'affaires qui résume parfaitement tout cela.
De 1939, on ne peut mieux caractériser le climat actuel du Troisième Reich que par le terme de tension. Tension dans tous les domaines, politique, économique, confessionnel et psychologique. Comme une machine surchauffée, les rouages du Troisième Reich tournent à se rompre, mais le mécanicien de Berchtesgaden ne paraît pas se soucier de modérer la pression. Ich glaube, einfach weil auch dies ist so spannend, was Sie.
Ce que vous avez raconté est absolument passionnant, mais l'heure tourne. Alors, je pense que là, maintenant, on arrive à un parallèle qui paraît totalement évident.